Ça marche ?
Oui, ça marche.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer cette journée dans la continuité de l'après-midi d'hier sur la thématique de peut-il y avoir un pouvoir légitime. Donc, on va revenir sur la notion de charisme, une notion qui nous intéresse depuis fort longtemps. Et la session de ce matin va se passer en deux temps. Il y aura deux interventions, celle de Yves Saint-Omer et de Didier Jean-Lagakis. Et il y aura une discussion après chaque intervention, voilà, ce matin. Donc, nous allons commencer par celle de Yves Saint-Omer, qui est professeur de sciences politiques et de sociologie à Paris 8, si je ne me trompe pas. Et donc, l'intervention, c'est « Repenser la sociologie historique de Weber au XXIe siècle ». Donc voilà, nous allons voyager dans le temps aujourd'hui, puisque nous étions un peu dans des temps anciens hier. C'est le but du colloque, de voyager à travers le temps et aussi à travers les territoires. Donc, je vous laisse la parole.
Merci, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à ce colloque passionnant. Je voulais m'excuser de ne pas avoir pu venir plus tôt. La rentrée universitaire est toujours plus difficile. Et voilà, c'était un temps un petit peu compliqué pour se libérer. Et puis, je voulais aussi dire mon émotion à participer à ce colloque en l'absence de Catherine, qui aurait dû être là. Alors, il me semble que, de façon globale, c'est relativement sain, à la fois éthiquement et scientifiquement, de penser avec... référence aussi importante que Weber, avec lui, mais aussi contre lui, ou tout contre lui, pour reprendre une formule célèbre à propos d'un autre auteur, et d'avoir un rapport qui soit un rapport libre et en même temps sérieux, en particulier si l'objectif n'est pas un objectif philologique, de comprendre ce qu'a dit l'auteur, mais un objectif de penser le présent et de se servir de ses instruments pour... étudier notre temps. À l'évidence, comme tout le monde, comme nous-mêmes, Weber était un homme de son temps et de son milieu, à la fois social et géographique, et les deux choses ne se superposent pas. Nous bénéficions à la fois du recul temporel, mais nous bénéficions aussi d'un certain décentrement du monde qui s'est produit depuis l'époque de Weber. Il me semble que sur des points importants, il a été capable de penser au-delà de son temps et au-delà de son milieu, et que sur d'autres, il est resté au moins en partie prisonnier, soit de son époque, soit de son milieu, soit des deux. Et ce que je voudrais aujourd'hui développer, c'est une réflexion sur le fait de savoir si Weber passe le test de la critique de l'eurocentrisme. Il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas les gens de ma génération, il est impératif de repenser les bases des auteurs qui ont constitué notre formation essentielle. Il est impératif de lire des auteurs qui viennent d'autres zones géographiques, du sud global, des suds globaux, qu'il est impératif de revoir nos auteurs et autrices au test de la critique de l'eurocentrisme. Non pas pour tout jeter au panier, mais pour essayer de ne pas rester borné dans un univers conceptuel qui a été fort, qui reste fort, mais qui ne dit pas tout. Or, Weber, quand il écrit dans un moment tout de même très particulier, c'est celui de l'apogée de la domination occidentale sur le monde. Et sans même aller dans l'étude analytique de ce qu'il fait, il est probable, c'est une hypothèse qu'on peut faire spontanément, qu'il ne pouvait pas ne pas être influencé par cette situation. Donc, quel bilan peut-on en faire ? Évidemment, en 30 minutes, je ne vais pas en présenter quelque chose d'exhaustif. Et ce que je vais présenter, c'est plus un programme de recherche, une perspective, plutôt qu'une présentation philologique ou conceptuelle aboutie. Et je voudrais donner quelques exemples où Weber passe ou non le test, avec deux parties. Une partie où il passe le test, selon moi, une partie où il le passe mal, toujours selon moi, et en prenant à chaque fois un exemple méthodologico-théorique générale et de cas de concepts particuliers. Alors, premier point sur lequel il me semble que la démarche weberienne, encore aujourd'hui, est d'une grande force heuristique et conceptuelle et passe sans problème le test de la critique de l'eurocentrisme, c'est celui de la méthode idéale typique. Alors, je ne vais pas m'y attarder longtemps, tout le monde la connaît ici. Notons qu'elle s'oppose à plusieurs modes passés et actuels de faire à la fois de l'histoire et de la sociologie historique. À la fois, ça s'opposait à son époque à la théorie des stades, l'idée que des stades successifs de développement de l'humanité devaient être mis en évidence. Ça s'opposait aussi à une histoire philosophique dite universelle, qui concevait l'évolution de l'humanité comme l'évolution d'une entité, d'une méga-entité. C'était opposé à ce qu'aujourd'hui, dans mon milieu, on appelle l'historicisme ou à l'interactionnisme radical, qui pense qu'on ne peut pas faire de comparaison s'il n'y a pas de lien direct, qu'il soit transfert ou communication, entre deux civilisations, deux pays, deux formations sociales, qui donc refusent, disons, des comparaisons de sociologie historique. Mais c'est aussi opposé à la méthode qui, en sciences politiques et en sciences sociales plus généralement, est aujourd'hui la plus répandue de faire des typologies, c'est-à-dire on a des cas, et puis on les met dans des cases, on fait des ensembles. Et donc, la typologie est une typologie empirique. La démarche idéale typique weberienne, à l'inverse, comme on le sait, s'obtient en sélectionnant certains aspects de la réalité, en insistant sur leur cohérence, en les épurant des éléments hétérogènes, et du coup, elle se conçoit comme la constitution d'une espèce de cartographie conceptuelle, de tableau de pensée, disait Weber. Les cas empiriques ne correspondent qu'exceptionnellement à ces idéotypes purs. Ils ne sont donc pas dans des cases. Ils sont plutôt situés sur une carte conceptuelle dont les idéotypes figurent les points cardinaux. Et on voit aussi l'évolution des cas, l'hybridation des cas qui s'éclairent à travers plusieurs idéotypes combinés pour la plupart du temps. Et il s'agit d'un outil qui est un outil méthodologique. La construction de l'idéal type ne vise pas à dévoiler des essences, mais à donner une capacité méthodologique à avoir un angle d'éclairage pour un problème donné. Et dans cette perspective-là, Weber conçoit l'histoire comme marquée par des processus de rationalisation, non pas par une voie linéaire ou unique dans laquelle certains seraient en avance et d'autres en retard, qui reste tout de même de notre inconscient en théorie politique en particulier, mais aussi dans le monde politique tout court, quelque chose d'extrêmement fort. Et même des grands auteurs pensent comme ça. Pensez à ce grand auteur qui est Jürgen Habermas et qui décrit les révolutions en Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin comme des révolutions de rattrapage. Rattrapage, ça veut dire qu'il y a une route, qu'il y en a qui étaient en avance et puis que les autres, enfin, les rattrapent. On a vu que c'était un peu plus compliqué. En tout cas, il n'y a pas de loi de l'histoire, même s'il y a des régularités, des tendances, mais ces tendances sont compatibles avec la prise en compte de la contingence, de l'événement et de la multiplicité des voies. Mais en même temps, grâce aux idéotypes, on peut éviter de se perdre dans la multiplicité du réel, des événements, et on peut bâtir des comparaisons raisonnées. Et il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui faire, au XXIe siècle, on ne peut pas faire une sociologie historique comparative non eurocentriste sans, d'une manière ou d'une autre, s'appuyer sur cette méthode idéale typique. Il me semble que c'est un des grands outils méthodologiques pour penser le monde aujourd'hui et que, de ce point de vue-là, cette méthodologie proposée par Weber est tout à fait actuelle. Alors, je passe rapidement sur un bémol. Parfois, Weber construit ses idéotypes à partir de cultures de réalité historique particulière. Cela a une valeur dans des comparaisons binaires, mais le risque, c'est d'essentialiser ces idéotypes, et en particulier, lorsque l'asymétrie des sources est forte, de tendre à essentialiser ou homogénéiser par trop telle ou telle réalité historique. Je voudrais donner maintenant un exemple de concept qui me semble, là encore, passer assez facilement le test de la critique de l'eurocentrisme, c'est la notion de charisme. Il me semble que c'est un vrai coup de génie de Weber. Vous en avez déjà parlé, je l'évoquerai rapidement, simplement, en insistant simplement sur le fait que, grâce à ce concept-là, l'opposition entre le passé et le présent, les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, va se retrouver complètement transformée, dynamisée. Le charisme est à la fois quelque chose qui peut relever du passé, mais qui est aussi, et Weber en insiste à partir des années 1910, quelque chose qui va caractériser le présent et le futur. On n'a donc pas dans la typologie des modes de domination légitime quelque chose de statique, mais quelque chose de dynamique. Passer à trois éléments apporte une dimension fondamentale. Et cette dynamisation de la dichotomie, société traditionnelle, société moderne, domination traditionnelle, domination légale, bureaucratique, vaut également dans une perspective non-eurocentriste, car le charisme est une réalité qui n'est ni occidentale, ni orientale, ni du nord, ni du sud, mais une catégorie qui est une catégorie transversale. Il me semble que c'est une des typologies les plus fortes de Weber. On pourrait revenir, mais je ne m'y attarde pas sur qu'est-ce qu'elle exclut. Mais en tout cas, elle permet aussi des idéotypes dérivés, comme le charisme de fonction que vous avez évoqué hier, et qui reste, qui, comme vous l'avez évoqué hier, peut valoir pour le Moyen-Âge occidental, mais qui vaut encore aujourd'hui. Pensez aux funérailles d'Élisabeth II, pensez à la nomination prochaine, à la renomination prochaine de Xi Jinping. Évidemment, tout le monde, tous ces personnages ne réussissent pas à se hausser à ce charisme de fonction de la même manière. Quand nous pensons à l'investiture de Macron l'an dernier, ça n'a pas forcément le même efficace. Un autre exemple de concept qui me semble passer sans problème le test de la critique de l'eurocentrisme, c'est celui de Stand, de groupe de statut. La situation de statut telle que la décrit Weber, c'est une position positivement ou négativement privilégiée du point de vue de l'estime sociale, fondée sur le type de conduite de vie et par suite sur le mode d'éducation formelle, le prestige de l'origine ou le prestige de la profession. Et du coup, le groupe de statut, c'est un ensemble de personnes qui revendiquent efficacement au sein d'un groupement une estime sociale particulière ainsi que, le cas échéant, des monopoles particuliers. Et Weber ajoute, la situation de statut peut se fonder sur une situation de classe définie ou plurivoque, mais elle n'est pas seulement définie par ce facteur. D'un autre côté, la situation de statut peut contribuer à conditionner ou conditionner à elle seule une situation de classe sans pour autant se confondre avec elle. Donc le cœur du groupe de statut, c'est une conception différentielle de l'honneur social et partant de la conduite de vie, la Lebensführung. Or, ce qui est intéressant dans cette catégorie-là, c'est que c'est une extension assez considérable par rapport à la langue allemande de son époque. Cela ne va plus désigner simplement les ordres, les états des sociétés d'ancien régime. Il va y avoir une double extension, d'une part à des groupes de statut et au-delà de la société occidentale, et deuxièmement, une extension supplémentaire avec l'idée d'une communauté de style de vie fondée sur le sens de l'honneur et pouvant, le cas échéant, entreprendre une activité rationnelle de défense de ses intérêts matériels et idéels. Et du coup, on va pouvoir retrouver des groupes de statut dans les sociétés contemporaines. Et la première traduction d'économie et société qui traduit par ordre, exclut cela, étant à remettre la notion de groupe de statut dans une perspective beaucoup plus classique de succession d'une société d'ordre à une société de classe. Ce qui est intéressant dans cette notion, c'est à la fois une perspective constructiviste du groupe social, même si, évidemment, certaines conditions matérielles favorisent ou défavorisent la construction de ce groupe social. Mais l'idée aussi, c'est qu'à l'intérieur du Stand, enfin du concept de Stand, de l'idéal type, on peut avoir des groupes qui soient plus ou moins fermés ou plus ou moins ouverts, et que, sans doute, l'une des caractéristiques des sociétés modernes est la disparition, ou en tout cas la raréfaction, au moins en Occident, des groupes de statut fermés, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des groupes de statut et qu'on observe, y compris dans nos sociétés, des phénomènes d'ouverture et de fermeture de ces groupes. Pensez à ce qu'on appelle la critique de l'énarchie en France, ou ce groupe de statut que constituent les gens issus d'Oxford et de Cambridge en Angleterre. Cela a une valeur qui n'est pas simplement une valeur temporelle, mais qui est une valeur également par rapport à cette critique de l'eurocentrisme. On n'a pas une opposition statique entre des sociétés qui seraient des sociétés de castes et des sociétés d'individus, comme chez Dumont, par exemple. Bien sûr, la caste pousse à l'extrême le principe du groupe statutaire fermé. Bien sûr, il est probable que, en Occident, cela constituait un obstacle, ces groupes fermés constituaient un obstacle au développement du capitalisme. On peut se poser la question aujourd'hui. Mais en tout cas, on a des dynamiques qui sont transversales par rapport aux sociétés. Et du coup, là encore, il me semble qu'on a un outil indispensable pour penser une sociologie historique comparative. C'est, je crois, une notion englobante qui est sous-utilisée en sociologie historique aujourd'hui. Et que, par exemple, pour essayer de comprendre la façon dont les castes en Inde se transforment et se mobilisent, ou pour comprendre un mouvement comme celui des Gilets jaunes en France il y a quelques années, cette notion de Stand mériterait d'être mise à disposition. Mais à contribution, excusez-moi. Alors, je voudrais, dans une deuxième partie, avancer quelques thèses concernant des points où, à l'inverse, la perspective berbérienne me semble passer plus difficilement, ou ne pas passer, le test de l'eurocentrisme. Alors d'abord, d'un point de vue méthodologique et théorique global, il me semble que sur la question des transferts, des connexions, des hybridations, de la globalisation, thème qui aujourd'hui se retrouve très fortement sur le devant de la scène dans les discussions en sciences humaines et sociales, mais également dans les discussions plus générales en politique, Weber n'est pas d'une grande aide. Il est nuancé, on le sait, dans son rapport éthique avec les différentes civilisations et les différentes religions du monde. Il ne l'était guère dans son appréciation de la supériorité économique et politique de l'Occident. Et ce que l'on peut noter, c'est que dans son œuvre, les transferts, les connexions, les métissages, les hybridations, les indigénisations, la vernacularisation, la globalisation sont des notions qui sont quasiment absentes. Elles sont largement absentes des recherches empiriques, elles sont absentes du vocabulaire théorique ou lorsqu'elles sont présentes, ce sont des concepts qui, pour reprendre son expression, sont sociologiquement amorphes, qui ne donnent pas des ressorts forts d'explication. Il y a une tendance très forte chez Weber à faire une comparaison qui oppose des blocs qui sont conçus comme étant sans relation les unes avec les autres. Cela correspond, il faut se mettre aussi dans ce moment historique, à un moment historique où les Occidentaux, dans leur domination du monde, sont les plus rétifs aux dynamiques de métissage et d'hybridation. Alors que dans l'extrême Occident que représente l'Amérique latine, l'idée du métissage était une idée forte, alors que les Anglais en Inde, à la fin du XVIIIe siècle, produisent des colons qui sont à la fois anglais et qui s'accoutument aux mœurs indiennes. La situation est complètement différente à la fin du XIXe et du XXe siècle. La colonisation africaine en est un exemple paradigmatique, mais on le retrouve également en Asie. Il y a que peu de contacts entre les sociétés occidentales et les sociétés colonisées et une tendance à dévaloriser celles-ci de façon radicale. les primitifs doivent être éduqués et non pas, disons, imités. Il faut noter qu'à ce même moment, les perspectives du Sud sont bien différentes. Il ne s'agit pas simplement d'être pris dans son temps, mais que beaucoup de perspectives venues des pays du Sud insistent sur des dynamiques d'hybridation, disant qu'il faut à la fois importer de l'Occident, mais ne pas importer de façon aveugle. Et alors, bon, il y a toute une palette de théoriciens et de praticiens qui réfléchissent là-dessus, mais que la fermeture de Weber par rapport à cette hybridation est forte. Et par ailleurs, dans son temps, que cela soit en Europe même ou à l'extérieur de l'Europe, beaucoup de débats sur l'impérialisme, la colonisation, etc., extrêmement importants, ont lieu, qui ne trouvent guère d'écho chez Weber. Il me semble qu'il s'agit, de ce point de vue-là, d'un mode traditionnel de comparaison qui, aujourd'hui, est intenable au regard des leçons de l'histoire connectée ou croisée, de l'histoire globale, et que il faut à l'inverse comprendre que jusqu'à l'orée de la révolution industrielle, les transferts passaient plutôt de l'Asie à l'Europe. Ça peut être vrai pour le commerce triangulaire. On parle du commerce triangulaire Europe, Afrique, Amérique latine, où c'est les Européens qui produisent les biens les plus développés, à plus de valeur ajoutée. Mais on oublie l'autre commerce triangulaire qui, entre l'Amérique hispanique, l'Asie et l'Europe, fait que l'Europe exporte les matières premières de ses colonies américaines en Chine ou en Inde. Essentiellement, il s'agit de l'argent, pour ensuite acheter des produits manufacturés aux Indiens ou aux Chinois pour lesquels elle ne sait pas comment autrement payer. À ce moment-là, la valeur ajoutée, elle se trouve en Asie, et pas en Europe, et l'Angleterre, jusqu'à la fin du XVIIIe, est protectionniste par rapport aux cotonnades indiennes qui sont plus performantes que les siennes. On pourrait aussi penser au concours de la fonction publique. Après tout, nous sommes ici, pour la plupart en tout cas, tous issus de concours ou d'examens de la fonction publique. Ils ont été inventés en Chine impériale. Vous voyez ici les petites box où on passait les concours impériaux. Ils ont été ensuite importés en Europe par loués par les jésuites, importés par Napoléon en Europe continentale au début du XIXe, puis imités dans le reste de l'Europe continentale. Et en Angleterre, c'est venu par la Compagnie des Indes orientales qui a imité cela d'abord pour l'Inde, et puis ensuite ces concours du civil service sont passés en Angleterre. Penser quelque chose comme ça évite d'opposer, comme le fait Weber de façon beaucoup trop simpliste, l'État bureaucratique traditionnel chinois et l'État qui serait rationnel occidental, surtout quand on pense que les examens sont retournés en Chine en ayant au passage pris une partie des caractéristiques des examens occidentaux. Du coup, c'est tout un autre bilan de la colonisation et de l'impérialisme qui doit être proposé que celui que Weber n'esquissait pas. Il n'y a pas de discussion sérieuse sur la colonisation et l'impérialisme chez Weber. Il y a une discussion qui est essentiellement internaliste des succès de l'Occident. Il n'y a pas de réflexion sur le renforcement paradoxal dans beaucoup de colonies, de rapports de production et de rapports politiques prémodernes au moment même où l'Europe se modernise. Et du coup, cela aboutit à une surestimation grossière de la supériorité du modèle politique et économique de l'Occident, qui est aujourd'hui très visible au moment où cet Occident est provincialisé par la montée des pays émergents, notamment des pays asiatiques. Il me semble que sur ce point, on ne peut plus être weberien. Ce n'est pas possible. Je voudrais maintenant donner deux exemples de concepts particuliers qui me semblent mal passer le test de l'eurocentrisme. Le premier est celui de la définition de l'État. Elle est extrêmement célèbre. Je dois dire que je l'ai utilisée encore jusqu'à il y a quelques années à mes étudiants lorsque je leur faisais un cours sur l'État. Là, je voudrais prendre celle qu'il a donnée, c'est une des dernières définitions, mais elle ne tranche pas fondamentalement avec les autres dans ses leçons sur la théorie de l'État qui n'ont pas été encore traduites en français. Donc l'État est un groupement, une relation sociale ordonnée qui est fermée et qui implique à la fois une direction et un appareil. En politique, cela implique la notion de domination. Cela implique également l'idée qu'il y a un territoire sur lequel cette domination s'applique, qu'il y a une administration qui peut représenter le souverain ou le chef de la direction du groupement, qu'il s'agit d'un groupement fermé, donc avec des affiliations. Rappelez-vous ce qu'a dit Catherine Colliot-Hélène hier pour celles et ceux qui étaient là, et qui peut imposer ses règlements avec la menace d'impliquer une violence physique ou une contrainte physique. Et l'État, du coup, c'est un groupement politique qui est à la fois rationnel, à travers des règlements qui sont des règlements normés juridiquement, qui reposent sur des fonctionnaires et qui a le monopole de la violence physique légitime sur le territoire sur lequel il s'applique. À l'évidence, une telle définition a comme point de référence l'État-nation unitaire occidentale, telle qu'il commence à se construire à partir des monarchies absolues françaises et espagnoles au début de l'ère moderne, et puis telle qu'il se perfectionne, entre guillemets, comme État bureaucratique, État administratif, les expressions sont différentes selon les courants, notamment à partir de l'introduction des concours de la fonction publique au XIXe, et qui inclut du coup aussi bien l'Allemagne hégémonisée par la Prusse que l'Angleterre à la fin du XIXe. Il s'agit d'un État territorialisé, unitaire, au moins en métropole, rationnel, entre guillemets, au sens weberien du terme, et bureaucratique, et ça semble crédible à son époque, et peut-être jusqu'au début du XXIe siècle, ça pouvait sembler crédible de définir l'État ainsi. Dans une perspective où cette formation sociale étatique particulière semblait être le point de référence par rapport à d'autres groupements politiques. On pouvait mesurer les autres groupements politiques à la lumière de cet État accompli, en quelque sorte, de ce groupement politique accompli et rationnel qu'était l'État occidental unitaire. Et il me semble que là encore, il s'agit d'une réduction qui, aujourd'hui, nous apparaît excessive, et qu'il vaut mieux penser la multiplicité des formes État plutôt que donner comme définition générale de l'État une définition induite à partir d'un modèle particulier d'État. D'une certaine manière, et aujourd'hui je crois que nous avons chez les historiens en particulier une relativisation à la fois qui est forte et salutaire de ce modèle étatique, qui en particulier revalorise l'État impérial ou les États impériaux sur leurs différentes formes, à la fois parce qu'ils ont beaucoup plus marqué l'histoire que cet État unitaire, qui s'avère probablement une parenthèse historique dans sa prétention au monopole de la violence physique légitime sur un territoire donné, qu'à l'époque lui-même, cet État unitaire n'était unitaire qu'en métropole et qu'il régnait sur ses colonies d'une façon qui n'était pas celle décrite par Weber, que les fédérations, les confédérations, les fédérations dites asymétriques, où certains États fédérés ont plus de droits que d'autres, ne passent pas, ou en tout cas passent mal, au filtre de la définition weberienne de l'État, et que aujourd'hui, à l'heure de la gouvernance globale, où on voit les juristes théoriser le fait que nous revenons à un pluralisme juridique sur les mêmes territoires, où des ordres juridiques différents s'appliquent à des personnes différentes et sur des thèmes différents, on peut penser que le Moyen-Âge européen, l'Inde moghole ou l'Empire britannique et ses dynamiques de self-rule, de dominion, de divide and rule sont plus heuristiques pour comprendre le présent que le type, l'idéal type de l'État weberien. Alors évidemment, on pourrait dire, ok, mais on garde cette notion d'État, et puis pour parler des formes d'État en général, on se replie sur la notion de Verband, de groupement politique, mais le groupement politique chez Weber est une notion sociologiquement amorphe, elle n'a pas vraiment de force, de valeur, et puis surtout, on peut se dire qu'il vaudrait mieux définir un idéal type de l'État unitaire, qui resterait la définition weberienne, et puis l'opposer à d'autres idéotypes d'État, que ce serait beaucoup plus dynamique. On peut aussi, c'est ce que font certains, diagnostiquer ou déplorer le déclin de l'État, du vrai État, de l'État tel que Weber l'avait théorisé et conçu en regard de ce qui se faisait à son époque. Il me semble que là encore, c'est une stratégie qui n'est pas très satisfaisante, on pourra y revenir. Et il me semble qu'il faut plutôt penser à redéfinir une forme État de façon beaucoup plus générale et de faire à l'intérieur des divisions idéales typiques entre, par exemple, l'État unitaire weberien et d'autres États. Pour finir en quelques minutes, je voudrais donner un second exemple, celui du confucianisme, dans son rapport avec le protestantisme et le capitalisme. On connaît là encore les formules célèbres et splendides de Weber, qui, en lisant Weber, n'a été emporté par ces magnifiques descriptions, analyses sur le confucianisme opposé au puritanisme protestant. Rappelons la thèse de Weber, les puritains ont librement et passionnément voulu s'instrumentaliser eux-mêmes au service de leur Dieu. C'est dans ce mouvement qu'ils ont su gagner un art remarquable dans la maîtrise rationnelle du monde. L'utilitarisme inflexible du puritanisme vivait, comme tout ascèse rationalisé, dans le monde tout en ne vivant pas du monde. Il a contribué du coup à forger ses capacités rationnelles supérieures et par là cet esprit propre au type d'homme défini par le Bérouf, qui sont finalement restés inaccessibles au confucianisme. Donc, le confucianisme est conçu comme un négatif du protestantisme, du puritanisme, rationnel certes, mais pas rationnel de la même manière. Si les deux éthiques étaient inspirées par le rationalisme, seule l'éthique rationnelle du puritanisme, orientée vers un au-delà du monde, a mis en œuvre le rationalisme économique intramondain jusque dans ses dernières conséquences, précisément parce que le travail dans ce monde ne faisait pour elle qu'exprimer la poursuite d'une fin transcendante. Le confucianisme signifiait adaptation rationnelle au monde, tandis que le puritanisme poursuivait la maîtrise rationnelle du monde. Rien ne contraste plus avec l'idéal confucianiste de qualité que l'idée de Bérouf. L'homme princier représentait une valeur esthétique et pour cela ne pouvait être un instrument même d'un dieu, alors que le véritable chrétien, l'ascète, qu'il fût hors du monde ou dans le monde, ne voulait être rien d'autre que cela précisément. C'était en effet la seule manière pour lui de rechercher sa dignité, et c'est parce qu'il voulait être tel qu'il a pu être tel qu'il a pu servir d'instrument pour bouleverser et maîtriser rationnellement le monde. Magnifique, superbe. Convaincant jusqu'à un certain point sur le puritanisme, sans doute, sur le confucianisme, quand on y repense, peut-être moins. Aujourd'hui, avec la montée des pays d'Asie de l'Est, qui développent un capitalisme extrêmement puissant, qui sont profondément influencés par le confucianisme, on peut se demander pourquoi, après tout, qu'est-ce qui se passe, du coup, qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est le confucianisme qui a changé, ou est-ce que c'était la perspective weberienne sur le confucianisme qui était unilatérale ou limitée. Et peut-être, là encore, on retrouve ce problème d'un idéal type essentialisé qui parle du confucianisme, alors que, quand on discute avec les collègues chinois ou japonais, évidemment, ils décrivent tout un ensemble de confucianisme historique qui ont énormément varié, de même que la chrétienté a beaucoup varié. Alors peut-être qu'il y avait d'autres rapports possibles du confucianisme, de l'éthique confucianiste à l'économie capitaliste, mais je ne suis pas suffisamment au point sur ces questions-là pour le dire, je laisse la question ouverte. Ce qui me semble par contre clair, c'est que chez Weber, le confucianisme est décrit comme une conduite de vie tendue par un idéal de réalisation personnelle qu'on pourrait dire, toute proportion gardée, si on voulait comparer avec ce qui s'est fait en Europe, humaniste. Mais cet humanisme-là, spécifique, bien sûr, n'était pas capable, comme le protestantisme, selon Weber, de pousser à l'émergence du capitalisme. Et peut-être Weber avait-il raison, en tout cas à l'époque où il en parle et pour les décennies qui l'ont précédé. Et en même temps, il y a une autre voie possible d'interprétation du confucianisme comme Lebensführung éthico-politique. Et il me semble que c'est tout à fait fondamental, c'est là-dessus qu'insistent aujourd'hui les penseurs est-asiatiques qui travaillent dans une perspective philosophique ou sociologique sur le confucianisme. Et dans cette perspective-là, on a un autre confucianisme et on a aussi peut-être un autre capitalisme. Dans cette perspective-là, le confucianisme était une éthique de vie pour les cadres politico-administratifs de l'État, visant à leur donner une éthique particulière, un bérouf particulier, dans leur conduite de l'État. Dans une perspective qui était une perspective à la fois paternaliste et méritocratique, de hauts fonctionnaires politico-administratifs, la division n'existait pas dans les pays est-asiatiques, au service du peuple et devant, grâce à l'État et à leur position, limiter ou contrebalancer les effets négatifs des puissances privées sur le peuple, des puissances privées, par exemple, de capitalistes, mais aussi les puissances privées à l'intérieur même de l'administration. Et il me semble que cette éthique-là a été mise au service de façon extrêmement efficace d'un capitalisme sous contrôle étatique dans le Japon de l'ère Meiji, dans les dragons asiatiques à partir des années 1960 et dans la Chine contemporaine, en particulier à partir du moment où on a ce mouvement à la fois d'ouverture au capitalisme et puis de contrôle du capitalisme par l'État dans les 20 dernières années, avec bien sûr des modalités différentes selon les pays. Je ne dis pas que cette éthique de vie est le seul facteur explicatif de ces succès économiques, mais je pense qu'il y a contribué, tout comme Weber ne disait pas que l'éthique protestante avait été le seul facteur d'explication de l'émergence du capitalisme en Occident, mais qu'elle y avait contribué d'une façon importante. Dans cette perspective-là, cela renvoie à un idéal type du capitalisme différent de celui, différent de celui du capitalisme protestant-individualiste de l'éthique protestante. Alors certes, évidemment, il y a un écart énorme entre cet idéal de Lebensführung et puis la réalité, mais cela est vrai également pour l'Occident. Le confucianisme politique me semble un point de départ intéressant pour constituer un idéal type de Lebensführung, de conduite de vie, des responsables politico-administratifs qui permettraient, par exemple, de mieux comprendre le républicanisme paternaliste français. Nous sommes, en quelque sorte, en France, le pays le plus chinois ou le pays le plus confucéen d'Europe. Cette idée des services publics au service du public, voire peut-être même l'Allemagne prussienne du temps de Weber. Je vous remercie de votre attention.